nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, nous recevons dans cette émission Noël Giray, conservateur général à la Bibliothèque nationale de France, pour nous parler d'Eugène Ionesco, le célèbre écrivain, auteur dramatique, membre de l'Académie française. Noël Giray, bienvenue dans cette émission. Vous avez réalisé, conçu l'exposition sur Ionesco à la BNF du 6 octobre 2009 au 3 janvier 2010, et vous avez voulu mettre en avant des facettes, 8 facettes de la personnalité de ce grand personnage. Est-ce que vous pourriez d'abord nous énumérer ces facettes et comment elles vous ont donné envie de mieux comprendre le personnage ?
J'ai lu d'abord, évidemment, j'ai commencé par lire ou relire l'œuvre d'Ionesco, ensuite des exégèses, ce qu'on a pu dire autour de lui, sur ses pièces, et ensuite donc j'ai plongé dans mon scénario et il m'a semblé qu'il y avait la possibilité de dégager dans son œuvre, puisque j'ai resserré quand même énormément sur l'œuvre théâtrale. Je parlais également d'autres activités, mais c'est vraiment l'œuvre théâtrale a priori. Et il m'a semblé qu'émergeaient de l'analyse de l'œuvre 8 grands thèmes possibles. Quand je dis thème, moi j'utilise ce mot, mais j'ai découvert un jour une interview d'Ionesco où lui disait un journaliste « Mais non, je n'ai pas de thème, j'ai des obsessions ». Donc on peut parler de 8 obsessions.
Il ne nous en voudra pas, au contraire. Alors parmi elles, pouvez-vous nous citer ces 8 obsessions ?
Alors, pour chaque obsession, donc comme je disais, je resserre sur l'œuvre théâtrale. Chacune d'elles est représentée par une œuvre théâtrale majeure, voire une deuxième. Il n'y a pas d'ordre chronologique réellement, mais je me suis rendu compte que finalement, en finalisant mon scénario, quelque part, la chronologie nous rattrapait dans cette exposition. Donc à tout seigneur, tout honneur, évidemment, on ouvre avec le langage. Parce que le langage, c'est la cantatrice.
Le langage.
Voilà.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve comme autre facette ? Il y a l'engagement ?
L'engagement, en effet, le rapport d'Eugène Ionesco à la politique, qui est marqué par cette pièce célébrissime qui s'appelle « Rhinocéros », qui est une pièce sur, pas spécifiquement, ni le communisme d'une part ou le fascisme d'un autre, c'est sur l'oppression de la masse et des idées véhiculées par une masse qui oppresse l'individu. Donc Rhinocéros, c'était évidemment la pièce, une des pièces d'ailleurs qui a été le plus jouée dans le monde, comme la cantatrice chauve d'ailleurs, et qui exprime le mieux ce regard de Ionesco sur la politique. Le troisième thème est celui de la critique. Alors la critique théâtrale, parce qu'il se fait que Ionesco, bon, tout auteur a à souffrir ou se plaindre de la critique et s'en plaint. Mais chez Ionesco, c'était beaucoup plus loin. C'est pourquoi nous avons... Alors là, c'est une partie de l'expo un petit peu spécifique. J'ai fait avec un monteur un petit film de 15 minutes pour raconter ce que j'appelle une histoire pleine de drames et de malentendus. Parce qu'Ionesco, qui n'était pas qu'attaqué, il a eu ses défenseurs et évidemment ses opposants, mais il répondait à la critique. Mais ce mouvement de réponse, de lutte contre la critique, contre ce qu'il appelait la mauvaise critique, venait de ce que lui-même avait eu, assez jeune d'ailleurs, dans un livre qu'il a fait, il n'avait même, je crois, même pas la trentaine, où il disait que la critique se devait d'être non pas subjective, mais d'essayer d'être au plus proche des intentions de l'auteur. Donc il considérait que c'était un travail remarquable quand il était bien fait, et calamiteux quand il était mal fait. Donc ça lui a valu pendant à peu près toute sa vie d'auteur dramatique des rapports extrêmement houleux. En même temps, je voulais dans ce thème montrer aussi quelle était l'importance de la critique théâtrale dans ces années qui vont à peu près des années 50, celle dont je parle dans l'expo, hein, des années 50 aux années 70, 80, disons jusqu'en 80, parce qu'il y avait beaucoup plus de presse quotidienne. Il y avait beaucoup plus de revues, aussi de périodiques. Chacun de ces journaux avait son critique dramatique. Ces gens allaient tous les soirs au théâtre et le lendemain, bon, pondaient la nuit un article et le lendemain, le publiaient. Ce qui fait qu'il y avait, cela correspondait aussi à une vie théâtrale qui était très importante dans la vie sociale. Plus peut-être que maintenant, même si le public va toujours du soir louer au théâtre, mais... Il y avait une importance. Donc, à travers les démêlés de Ionesco et la critique, c'était de montrer aussi toute cette vie, disons, intellectuelle parisienne. C'est un phénomène très parisien, très bouillonnant. Et féconde.
Quels sont les autres thèmes ? On trouve Dieu, également la religion.
Bien sûr, Dieu, ça couvre toute sa vie. D'ailleurs, ces thèmes souvent revivent en petit, en grand, dans des œuvres avec d'autres thèmes. Hein. Mais Dieu, bien sûr, ça a été une quête spirituelle toute sa vie. Fut-il croyant vraiment ? Jusqu'où allaient ses doutes ? Ou sa foi ?
À la question « Êtes-vous croyant ? » Il répondait « J'ai besoin de l'être. Le monde est à la fois merveilleux et atroce, un miracle et l'enfer, et ces deux sentiments contradictoires, ces deux vérités évidentes, constituent la toile de fond de mon existence personnelle et de mon œuvre littéraire. »
Absolument, mais c'est un des fondements de tous les questionnements qui démarre d'ailleurs avec cette question qu'il a vis-à-vis la question existentielle, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Pourquoi le mal aussi rôde-t-il dans le monde ? Il est extrêmement frappé, voire ravagé par les guerres, les révolutions, le sang, la violence qu'il y avait dans le monde, et l'oppression aussi des peuples. Et donc, si Dieu n'existe pas, parce qu'il y a la mort aussi, la mort qui est un des thèmes de l'exposition, et qu'il a aussi quelque chose qui le ravage, pourquoi la mort ? Donc, à partir de là, il faudrait Dieu. Et tout ça se tient étroitement, en effet, dans son œuvre.
Il y a également l'illumination et la peinture.
L'illumination, oui, c'est un peu le corollaire de Dieu, c'est-à-dire ce moment de pacification que peut connaître, c'est-à-dire les ténèbres. On perce les ténèbres et on va vers la lumière. Alors, chez lui, tout se traduit dans son théâtre par des métaphores. C'est pour ça que vous avez des personnages qui s'envolent comme Amédée à la fin de la pièce. Vous avez l'échelle, qui est le clin d'œil à l'échelle de Jacob, la montée à l'échelle. Vous le retrouvez dans La soif et la faim, dans d'autres pièces. C'est-à-dire de vraiment se désengager de cette espèce d'engloutissement dans la matière, l'engloutissement dans la société aussi. Il reprochait beaucoup à la société, justement, d'être trop prenante, d'être trop matérialiste, justement. Donc, de pouvoir s'échapper, s'élever, aller vers la lumière. Et il citait très souvent quelques rares exemples de ce genre de bonheur qu'il a eu dans sa vie, qu'il n'a pas ressenti tous les jours.
Pour constituer cette exposition, vous avez fait appel à Marie-France Ionesco, qui est la fille de Jeanne Ionesco, avec laquelle donc vous avez collaboré pour retrouver les archives qui ont accompagné toute la vie donc, du célèbre dramaturge. Comment s'est passée cette collaboration ? Comment avez-vous mis en exergue des nouveaux documents ? Est-ce que ça a été émouvant pour vous, pour Marie-France Ionesco ?
Ah, je crois pour l'une et l'autre, surtout pour elle. Hein, je veux dire, c'est...
Bien sûr.
Tout est parti du don extrêmement généreux que fait Marie-France Ionesco des archives de son père, à la Bibliothèque nationale. Et comme c'était également l'année d'un centenaire, c'était tout à fait naturellement que la Bibliothèque nationale désirait et souhaitait faire cette exposition. Ionesco a pratiquement toute sa vie déclaré qu'il ne voulait pas garder ses archives, qu'il ne les gardait pas. Donc pour beaucoup de...
Mais c'est terrible ça, comment allons-nous faire pour garder...
Dieu soit loué, à quelqu'un dans la vie de Jeanne Ionesco qui s'appelait Rodica Ionesco et qui était son épouse. Et qui a vaillamment surtout pas écouté son mari.
Elle avait caché comme ça les documents de son mari.
Enfournée absolument dans le lit, il y en avait partout, dans les placards, dans la bibliothèque, partout. Et tout y est. Enfin, on reçoit des photos, des correspondances, des kilos de correspondances, surtout les manuscrits de ces pièces, des pièces historiques, entre autres, par exemple, les chaises, qui est une des grandes pièces aussi très jouées d'Ionesco, où vous avez à peu près toutes les étapes de l'écriture et de notes. Donc ça n'a pas de prix pour la recherche. Il est évident que ça va redévelopper et donner de nouvelles pistes à la recherche sur l'œuvre d'Ionesco, puisque jusque-là, tout le monde pensait que c'était perdu, disparu, ou en tout cas, c'était inatteignable.
Un élan de renouveau va naître dans l'œuvre et la vie.
Absolument. D'ailleurs, il y a déjà des demandes. Il faut que les chercheurs laissent un tout petit peu de temps aux conservateurs pour finir de classer. Parce que... Donc, on a achevé, je crois, de vider, de pré-trier tout ça. On a commencé en novembre, on a fini en janvier, donc en janvier de cette année. Donc, par rapport à l'exposition, on était très, très, très charrette. Et Marie-France, pour elle, bien sûr, Marie-France Ionesco, ça a été un très, très grand moment parce qu'elle... Elle ne s'était jamais attaquée, en fait, à ce monceau d'archives, parce que aussi un classement d'archives est très très lourd à faire tout seul. Et donc tout ça a surgi et ça a été pour moi une très très belle expérience parce que elle connaît l'œuvre de son père sur le bout des doigts. Donc surgissaient des bouts de manuscrits complètement isolés, feuillet par feuillet, immédiatement il identifiait, on reconstituait. Et voilà, et bien ça, moi, ça m'a permis aussi d'offrir, ma foi, une exposition où tout ce qui est présenté est inédit. Que ce soit les manuscrits, les correspondances, mais aussi même dans les photographies, parce que ne pas oublier qu'Ionesco est un auteur monté dans le monde entier. On oublie cette facette complètement internationale. Dans certains cas, il a même été parfois, c'est la première mondiale d'une pièce comme Rhinocéros, a été faite en Allemagne, pas en France. Donc il est joué à l'heure actuelle au Japon, aux États-Unis, partout. Et il y avait un trésor photographique de représentation. Laurence Olivier a joué Rhinocéros, dirigé par Orson Welles. Voilà. Ça permet d'offrir vraiment une exposition. Les documents sont inédits.
On trouve également des œuvres picturales, des dessins, des œuvres de Ionesco lui-même. C'est tout à fait original et unique de voir un homme de lettres qui reçoit des œuvres de personnalités du monde des arts à ce point. Et on trouve des Miro, on trouve des Alechinsky, Max Ernst, Tanguy, enfin de nombreux grands peintres et poètes qui vraiment font part à Eugène Ionesco de leur admiration et que l'on trouve donc dans cette exposition. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est tout à fait unique en soi ?
Unique. Rien n'est peut-être jamais unique, mais en effet, c'est une quand même des particularités d'Ionesco. Il s'est intéressé très tôt à la peinture. Je crois que des premiers articles très jeunes étaient sur un petit tableau de Van Gogh. Et donc, je vous disais aussi, il s'intéressait à la critique et il a pratiqué la critique en matière de peinture, de sculpture aussi, puisqu'il y a une très jolie sculpture de Jacobsen dans l'exposition. Et il a noué de véritables rapports d'amitié avec, en effet, justement, vous parliez Alechinsky, Miro, Max Ernst, c'est normal, il est sur le plan de l'écriture, il est dans la filiation surréaliste, Ionesco. Donc ça se retrouve dans ses goûts picturaux. Voilà. Et donc, il a édité avec des peintres, justement, comme Miro, de ce qu'on appelle des beaux livres. Il en faisait les textes, Miro, les illustrations. Et puis, toute sa vie, il a couru les galeries, accepté de faire des préfaces pour des jeunes peintres. Voilà. Et ça aussi, il est possible de le montrer dans l'exposition. Et ça peut surprendre, en effet, puisque c'est une exposition de matière surtout littéraire et théâtrale.
Il a reçu beaucoup de cadeaux de personnalités.
Oui, bien sûr, hein.
Il était très, très aimé.
Il ne faut pas oublier aussi que, disons, ce dernier thème de l'exposition correspond à sa propre démarche. À lui, c'est qu'il s'est mis à la peinture aussi à la fin.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cet angle, de cette facette également de sa personnalité ? Pourquoi peignait-il ?
Il s'en est exprimé, c'est qu'il a à un moment un rejet vis-à-vis du langage, vis-à-vis de l'écriture et du théâtre lui-même d'ailleurs, c'est-à-dire les mots ne lui suffisent plus, il le dit, les mots ne sont pas le langage. C'est quelqu'un qui, quand il écrit, a beaucoup, disons, viennent sous sa plume des images mentales. Et souvent, une pièce, par exemple, je parlais des chaises, une pièce comme les chaises est venue d'une vision, d'un rêve. Et il l'a dit, très souvent, une pièce, une nouvelle peut partir d'un rêve, d'une image. Donc déjà, c'est quelqu'un qui fait un théâtre d'images. C'est pour ça aussi, à un moment, il s'est essayé au cinéma, puisque là, l'image est encore plus forte, plus présente. Et pour lui, c'est un outil qu'il a voulu essayer. Et quand il se sentit fatigué du langage, ça se situe à peu près dans les années 70, et ça correspond même à des moments de dépression, il s'est tourné vers la peinture, le dessin, les pots de couleurs. Et il a écrit d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle « La main peint ». Mais il voulait dire par là que quelque part, entre les images qu'il a, qui se produisent dans son cerveau, et le papier, la feuille, le pinceau, il y a très peu de temps. C'est-à-dire qu'il peut tout de suite, et il suffit de voir les dessins qui sont au mur, sont des choses assez étranges, assez étonnantes, qui sont très oniriques en fait. Et ça lui a fait, ça a été comme une thérapie pour lui hein, les dernières années de sa vie. Zurich, près de Zurich, à Saint-Gall, la galerie Harker lui avait offert il pouvait s'installer dans un atelier où il faisait de la peinture, des lithographies, il a eu des expositions. Ces expositions se sont promenées dans le monde entier aussi, comme son théâtre. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Il n'a pas quand même cessé d'écrire, lui-même s'en moquait en disant « Bon, je refuse les mots, mais je réutilise les mots pour dire comme j'aime la peinture. »
Un artiste à part entière.
Mais c'était un artiste à part entière, oui.
Parmi les documents que vous avez découverts, y en a-t-il un en particulier qui vous a plus ému que les autres ? Qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé, des documents les plus rares que vous ayez trouvés, par exemple ?
Ce qui a été formidable, c'est parce que rien n'est plus formidable de découvrir à travers les papiers, disons, l'œuvre qui tient peut-être le plus à cœur et qui a été la plus travaillée par un auteur, et en l'occurrence, c'est le roi Sommer. Sa pièce où là, il y a un flot de manuscrits, de versions différentes. On sent que le roi Sommer, qui est une œuvre majeure d'ailleurs, est vraiment l'œuvre qu'il a portée le plus longtemps. Et ça, je dois avouer, puisqu'on trouvait, disons, de façon dispersée les manuscrits avec sa fille, ça a été un grand moment, la redécouverte des manuscrits du roi Sommer. Sinon, c'est plus anecdotique, mais ça a été quand même aussi un grand moment, c'est-à-dire c'est la redécouverte dans la bibliothèque, au milieu des livres, mais alors vraiment par hasard, la méthode assimile, puisqu'on sait que la cantatrice chauve est en fait le langage des Smith et des Martin. Dans la cantatrice chauve, tout est parti du langage stéréotypé de la méthode assimile, la pratique de l'anglais. Marie-France Ionesco me disait que lui croyait l'avoir perdu, on ne pensait même plus qu'il l'avait gardé, et puis très bêtement, regardant dans la bibliothèque, parce que chercher des livres, voir s'il y avait des livres à noter justement par rapport à son travail, la méthode assimile, qui mine de rien pour certains gens est mythique, puisqu'on sait que la cantatrice est partie de là. Et donc, l'ouvrage est d'ailleurs dans l'exposition, un peu retapé parce qu'il était très abîmé, très usé. Et surtout, il est très émouvant parce que sur la page de garde, Ionesco a crayonné. Et crayonné quelque chose qui est une espèce de cri d'angoisse vis-à-vis du temps qui passe. Alors, c'est extraordinaire quand on sait que la cantatrice chauve est une pièce qui fait beaucoup rire, qui est d'une grande, grande drôlerie, quoique inquiétante, mais quand même fort drôle, et que vous tombez sur cette espèce de cri de l'auteur qui voit le temps passer et s'angoisse sur la fuite du temps.
Donc beaucoup de choses à découvrir à cette exposition, également des vidéos, puisque vous l'avez organisée en partenariat avec Lina.
Nous avons été très gâtés par Lina.
Voilà, dans cette petite vidéo qui dure quelques minutes, pour ainsi dire même pas, avec un jeu d'acteurs entre la fille et le père, et on découvre une Marie-France Ionesco, très bonne comédienne d'ailleurs.
Très bien.
Et qui est très émouvante. Également d'autres vidéos un peu plus politiques ou d'engagement. Et puis bien sûr des textes, des documents, tout cela à découvrir, donc un avant-goût grâce à vous, Madame Giré. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et nous allons en découvrir tout cela très rapidement à la Bibliothèque nationale de France, une exposition qui a lieu jusqu'en janvier 2010. Merci.